Radio Okapi.
À Kinshasa, mesdames, messieurs, voici les titres de votre journal. Aider la RDC à pacifier tout son territoire, c'est l'une des résolutions après les tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue égyptien hier mardi au Caire. Cette entente s'ajoute également à d'autres accords de partenariat pour le développement de deux nations. Élection en ce moment au Palais du Peuple des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui vont être connus dans quelques heures. Notons que ces élections se déroulent en mode candidat unique aux différents postes, à l'exception du poste des rapporteurs adjoints qui compte deux candidats en compétition. Jean-Pierre Wamfwana, directeur adjoint en charge de la communication à la présidence, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il revient sur le séjour des 48 heures du chef de l'État Félix Tshisekedi en Égypte. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous à ce journal présenté par Pierrot et la Meji. Polydor Basunga assure la mise en onde. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son homologue égyptien conviennent d'œuvre des communs accords pour aider la RDC à pacifier tout son territoire. C'est l'une des résolutions après le tête-à-tête entre ces deux dirigeants hier mardi au Caire. Cette entente s'ajoute également à d'autres accords de partenariat pour le développement de des nations et aussi pour la consolidation des relations bilatérales RDC, Égypte. D'autres détails avec vous, Billy Ivan Lutumba.
De son séjour au Caire, Félix Tshisekedi s'est réjoui de l'engagement de son homologue Fatah al-Sissi de s'impliquer afin que la RDC parvienne à emprunter la voie suivie par l'Égypte pour sa stabilisation après le printemps arabe.
Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones de l'Est et au Nord-Est de notre pays. Le président al-Sissi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant.
Ajouté à ceci la lutte contre la corruption et l'impunité, l'Égypte est donc pour le président congolais un modèle à suivre pour une performance économique. Dans la foulée, ce sont des investissements d'une hauteur de 400 millions de dollars obtenus par la RDC pour la création d'une intégration économique nationale, se félicite Félix Tshisekedi, qui par ailleurs pense à une extension plus moderne de la ville de Kinshasa.
Je profiterai de cette occasion pour aller visiter la nouvelle ville du Caire, que j'aimerais dupliquer aussi à Kinshasa, qui n'est habité que sur un tiers de sa partie et que dans les années qui viennent, nous allons avoir la ville la plus peuplée d'Afrique, à peu près 30 millions d'habitants.
Covid-19 comme fléau planétaire, les deux chefs d'État ont aussi partagé des expériences de lutte contre la maladie, a révélé le président congolais.
Restons sur ces chapitres pour dire qu'hier, dans la soirée, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la cérémonie des signatures des contrats et protocoles d'entente entre, d'une part, des sociétés égyptiennes et de l'autre, le FPI et quelques ministères. Les détails avec vous, Esther Ndalafina.
La construction de la centrale photovoltaïque de Chipoka avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga, long de 185 km, la construction du port d'Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Lubi dans les Sankourou font partie des grands projets qui seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible. Il faut ajouter à cela l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et la construction de Kito, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Afrexim Bank et les seconds de plus de 580 millions portant sur un investissement global de près d'un milliard de dollars suivra quelques temps après. Signalons que tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30%. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, au contact déjà d'un premier dossier à traiter en sa qualité de futur président de l'Union africaine. Au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a interpellé le président congolais sur la question de la gestion des eaux du fleuve Nil qui oppose l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Dans cet élément, Billy Van Lutumba nous propose un bref aperçu de cette situation qui met aux prises principalement ces trois États.
Le partage des eaux du fleuve Nil suscite depuis des décennies des vives tensions à plusieurs reprises entre les États par lesquels ce fleuve passe. Il s'agit ici particulièrement de la confluence située au niveau de Khartoum au Soudan, le Nil bleu qui prend naissance dans les hauts plateaux éthiopiens et les affluents qui se rejoignent à la hauteur de Khartoum où le fleuve devient le Nil à proprement parler jusqu'en Égypte. Ainsi, le risque des confrontations sur le Nil provient de l'existence d'une pluralité des régimes juridiques sur le bassin difficilement conciliable et parfois incohérent entre les États impliqués. Pour l'Égypte par exemple, c'est devenu une question de sécurité nationale. En 1995, la situation n'était pas loin de dégénérer entre le Soudan et l'Égypte, car le gouvernement soudanais prévoyait la mise en place d'un nouveau barrage sous le Nil, ce qui a fortement irrité le Caire. Par ailleurs, avec le développement de l'hydroélectricité en Éthiopie qui vient de terminer en juillet 2017, la construction du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique appelé le barrage de la Renaissance, les rapports de force des pays riverains du Nil semblent donc se cristalliser autour de cette ressource. Au nombre des divers échanges sur cette question pour éviter l'embrasement, plusieurs observateurs estiment que le bassin du Nil semble depuis les années 2000 être entré dans une phase de développement coopératif malgré une récente redéfinition de son partage à travers diverses initiatives de gestion commune comme l'initiative du bassin du Nil. Un cadre institutionnel doit ainsi permettre une harmonisation entre les diverses ambitions et régimes juridiques, estime-t-il.
Dans quelques heures, au courant de cette journée, le bureau définitif de l'Assemblée nationale sera installé. En ce moment même, les élections se déroulent au Palais du Peuple avec des candidats uniques aux différents postes, à l'exception du poste de rapporteur adjoint qui compte deux candidats en compétition. Malgré la saisine du Conseil d'État par les collectifs des candidats invalidés, l'élection a bel et bien lieu ce mercredi puisque la plainte des invalidés venait d'être déclarée non fondée. Michel Kifindangoy.
Le rejet des requêtes des députés invalidés par le Conseil d'État ouvre la voie sans obstacle au candidat du ticket gagnant de l'Union sacrée à occuper tous les 6 postes sur 7 que compte le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso-Nkodia, candidat unique, sera bientôt confirmé président du bureau définitif de l'Assemblée nationale en remplacement de Janine Mabunda déchue. Autrefois déchue par la même Assemblée plénière, Jean-Marc Kabounde de l'UDPS, aussi candidat unique, revient en force au même poste de premier vice-président. À la deuxième vice-présidence, Vital Baniwe-Sizé de l'AFDC n'a pas de concurrent. De même, au poste de rapporteur, Joseph Lembi du MLC est candidat unique. Yansin Tichisso et Colette Tchomba du FCC sont en compétition pour le poste de rapporteur adjoint. À la question, la seule candidature est d'Angèle Tabou de Ensemble. Et de même, à la question adjointe, Kanefu Mundjiwa est candidat unique. Le prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale n'aura donc que 2 femmes sur les 7, dont 6 sont membres de l'Union sacrée.
À propos justement de cette élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, notez cet appel du président du parti Mouvement de solidarité pour les changements. Laurent Batoumona invite les députés à y lire l'étiquet Mbos Kabounde pour, dit-il, donner la chance à la vision du président Félix Tshisekedi de se matérialiser. On l'écoute.
Par rapport au vote qui a lieu cet après-midi au niveau de l'Assemblée nationale, j'invite tous les députés nationaux, ceux qui se sont manifestés durant ces derniers temps, où la plupart a voté en faveur du départ du bureau sortant, du maintien du bureau d'âge, et par rapport au Premier ministre, nous invitons au nom du MC, le mouvement de solidarité pour les changements, que ces députés tous, comme un seul homme, qui puissent voter pour l'étiquette du président d'âge honorable Mbosso Kodiampanga, et du président AI de l'UDPS, honorable Jean-Marc Kabounde. Pourquoi faut-il voter? C'est surtout pour soutenir la vision que le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo est en train d'imprimer. Nous disons que tous qu'ils votent en faveur du ticket qui a été proposé par l'ensemble de tous ces députés que j'estime nationalistes en faveur du ticket Union pour la Nation.
La femme congolaise est victime de l'exclusion et de la discrimination dans les institutions politiques de la République démocratique du Congo. Cette situation est un recul et ternit l'image de l'action du chef de l'État dans la parité homme-femme. C'est ce que dénonce Faïda Mwangiloa, ministre honoraire et experte du genre nommée récemment conseillère de l'ONU Femmes au Mali. Dans une interview accordée aujourd'hui à Radio Kapi, elle déplore notamment la formation d'un gouvernement dans les Kasaï sans la présence des femmes. La même situation est vécue au sein du bureau de l'Assemblée l'Assemblée nationale. Faïda Mwangilwa plaide aussi pour la nomination d'un gouvernement qui tienne en compte de la présence de femmes. Elle est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est inacceptable de voir un gouvernement sans la présence des femmes. Et là, vous rendez le chef de l'État menteur. Il a dit, il a promis aux femmes que je veillerai à votre participation au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui là, qu'on ait un gouvernement au niveau de la province du Kasaï sans femmes? Nous dénonçons aussi ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale des tractations où on voit des femmes être débarquées. Il faudrait pas que nous puissions retomber bas. Quel est le modèle que nous allons partager avec d'autres femmes au niveau de l'Afrique, au niveau du monde? En tout cas ici, c'est le cri que nous lançons au chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions.
Parlons justice, reprise du procès anticorruption en appel Vital Kamerhe et consorts le 15 février à la prison centrale devant la cour d'appel de la Gombe. Le procès a été suspendu à la suite d'une exception soulevée par la partie civile, la République qui exigeait d'être régulièrement saisie pour l'appel de la partie prévenue. Selon la partie civile, il appartenait à la défense des Kamerhe de lui transmettre les pièces justificatives de l'appel formulé devant la cour. Donc ce procès reprend en principe là où il s'était arrêté. Le cardinal Fridolin Ambongo poursuit son séjour dans le Haut-Katanga. Ce mardi, bien avant de célébrer la messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, il a été reçu par le gouverneur des provinces. D'après lui, la situation qui traverse le pays le préoccupe en tant que pasteur. Voilà pourquoi il entreprend des démarches auprès des autorités pour discuter avec elles. Par ailleurs, il réconforte aussi la population pour qu'elle ne perde pas courage. C'est ainsi qu'il s'est exprimé devant la presse du gouvernorat. On écoute le cardinal Fridolin Ambongo dans cet extrait choisi par Jean Andou.
Je suis venu dans la province du Haut-Katanga parce que je connais l'importance de cette province au-delà du Haut-Katanga, l'ensemble du Grand Katanga, pour la paix, l'unité nationale. Vous savez la situation que nous sommes en train de vivre et nous, comme pasteurs, ça nous préoccupe. C'est pourquoi nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller parler avec les uns et les autres et en même temps réconforter notre peuple afin qu'il ne puisse pas se décourager, afin qu'il ne puisse pas se laisser aller dans des directions qui ne sont pas nécessairement dans ses intérêts. C'est pourquoi j'ai commencé ma visite avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga pour faire le point de la province avec lui avant que je ne reprenne demain mon bâton de pèlerin pour visiter les trois diocèses du Haut-Katanga. Toute ma sollicitude pour ce peuple qui vit ici et qui, malgré des richesses potentielles dont on parle, il y en a qui souffrent encore. Mon message, c'est demander à ce peuple de ne jamais se décourager.
13h14 à Ituri, où de nombreux déplacés qui avaient fui le combat entre les FRDC et les miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, et de la CODECO, à la périphérie des Bounia, regagnent leur village d'origine. Selon des sources concordantes, le déploiement des FRDC dans leur entité et les mauvaises conditions de vie dans leur lieu de refuge sont les facteurs qui encouragent le retour de la population. Cependant, d'autres déplacés qui estiment que la situation sécuritaire reste précaire refusent de retourner dans leur village.
Ce mouvement retour est observé notamment au village de Solenyama, Tokodo, Miala au nord de Bounia et Lengabo à l'entrée sud de Bounia, ainsi que dans la localité de Kotoni qui regroupe 9 villages à environ 18 km au sud de Bounia. Même décor dans les entités voisines, au groupement Babias et plus précisément à Nyakiru et Bogoro, en secteur de Bahema Sud. Des sources locales indiquent que c'est la présence des FARDC dans ces localités et les conditions de vie difficiles dans leurs lieux de refuge qui les encouragent de rentrer. Cependant, les menaces des groupes armés persistent encore dans certains milieux où sont signalées la présence des miliciens, ce qui empêche les retours de la population et certains retournés d'évacuer librement à leurs occupations. C'est entre autres au village de Busaga, en chefferie de Babo Abokoe, et à la périphérie de Kotoni où les opérations militaires sont en cours pour neutraliser ces groupes armés. Les autorités coutumières et les acteurs de la société civile saluent les efforts de l'armée pour sécuriser la population dans ces entités. Ils demandent aux habitants de collaborer avec les services de sécurité pour éviter l'infiltration des suspects pour déstabiliser leur village. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En bref et en sport, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020, auront lieu ce mercredi soir au Cameroun. La première rencontre est un derby de l'Afrique de l'Ouest qui va opposer les Aigles du Mali au Sili National de la Guinée. Deux équipes qui ont le même style de jeu, donc un match difficile à pronostiquer. En deuxième rencontre, c'est le duel de fauves entre les Lions de l'Atlas du Maroc, tenant du titre, et les Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur de la compétition. Ici, ça sera un match difficile avec deux styles. D'un côté, le Maroc très technique et de l'autre côté, le Cameroun très physique. Notons que les Léopards de la RDC, double vainqueur de cette compétition, ont été éliminés en quart de finale samedi par le Cameroun sur la note de 2-1.
Actualité internationale.
À Madagascar, sept agents forestiers ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission en 2020. Et le nouvel incident d'il y a deux semaines qui a causé la mort d'un gendarme et de deux habitants dans une aire protégée du centre de l'île ravive les tensions au sein de ce corps de paramilitaires. Tous sentent délaissés. Ils réclament la dotation d'une arme de fonction pour faire face aux trafiquants et pilleurs des forêts généralement armés.
L'invité.
Comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi vient de passer 48 heures au Caire en Égypte où il était accompagné d'une forte délégation. Ce séjour avait pour mission de consolider le partenariat bilatéral entre les deux pays et obtenir des investissements en RDC. Pour en parler, nous avons comme invité Jean-Pierre Onfoana, directeur adjoint en charge de la communication à la présidence. Il s'entretient au téléphone avec Billy Ivan Lutumba.
Jean-Pierre Onfoana, bonjour. Le chef de l'État a presque clôturé son séjour en Égypte, au Caire, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue égyptien. Pouvons-nous savoir en quelques mots ce qui ressort de ce tête-à-tête?
Le président de la République a pu rencontrer son vis-à-vis égyptien, Monsieur Al-Sisi. Ils ont eu à parler d'un certain nombre d'accords, d'ententes signés au cours de son séjour, ici même au Caire, dans le domaine agro-industriel, dans le domaine des infrastructures. C'est un contrat signé ce soir même, le chef de l'État reçoit différents groupes qui sont potentiellement disponibles pour venir investir en République démocratique du Congo, et ceux qui devront contribuer à la matérialisation des accords signés aujourd'hui même. Dans un premier temps, il s'agit d'un montant d'environ 400 millions dont ils vont toucher le secteur des infrastructures, mais aussi de l'agro-industriel.
Et ce montant, c'est un prêt ou bien c'est un don où il y aura à restituer ça d'une autre manière?
Il ne s'agit pas du don. Vous avez suivi, bien entendu, qu'il y a une banque qui est impliquée dans ces accords, c'est-à-dire l'African Bank, qui devrait accompagner la RDC dans la matérialisation de tous ces projets et donc qui va aussi se porter comme garante dans ce processus. Et donc, il y a notamment un groupe d'investisseurs égyptiens qui vont mettre la main à la poche pour pouvoir matérialiser tous ces projets, je le répète, dans le domaine de la construction et dans le domaine de l'agro-industrie. Il y a aussi, il faut le souligner, des ententes qui sont prévues, et c'est à moyen terme, avec le génie militaire égyptien qui avec lesquels donc le gouvernement congolais devrait signer un MOU dans le cadre de la navigabilité du fleuve Congo, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où le fleuve n'est pas navigable et donc le site via le génie militaire devrait aider la République démocratique du Congo à pouvoir rendre le fleuve navigable et c'est très très important du point de vue économique dans notre pays.
Vous avez parlé de moyen terme. Est-ce qu'il y a déjà des projections, oui. Une idée de début de tous ces projets?
Quand je parle de moyen terme, je parle ici par exemple du projet concernant la fibre optique. Il y a des bons espoirs pour que ces projets soient finalisés et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence ici du ministre Kinshasa des TPMTIC à l'hôtel où devrait être signé donc le contrat concernant ces projets très importants dans le domaine des télécommunications. Et donc pour l'agroalimentaire, donc il y a aussi un projet qui est en négociation avec un groupe qui s'appelle TACAP et donc ce groupe-là devrait investir plus ou moins 70 millions. C'est encore en négociation, je le précise, et donc il y a de bons espoirs pour que cela soit finalisé, on va dire, à moyen terme.
Oui, le chef de l'État vient de finir presque ce qu'il avait à faire au Caire. Et parlons un peu de sa présidence à l'Union africaine. Il était programmé qu'il passe par Addis Abeba. Est-ce que le programme reste maintenu?
Le programme reste maintenu, sauf imprévu. Donc, ici, on se trouve, bien entendu, à au Caire. Donc, notre itinéraire initial, donc, nous indique que nous devrions faire un stop en tant qu'équipe d'avance à Addis Abeba pour 3 jours. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune indication qui nous donne à croire que ce voyage est annulé. Et donc, pour moi, voilà, donc, sauf imprévu, le chef de l'État devrait être à Addis Abeba dans les heures qui viennent, si pas dans les jours qui viennent.
La dernière préoccupation, à partir de quel jour la prise de fonction aura lieu?
Selon le programme déterminé par le panel qui doit accompagner le chef de l'État dans sa mandature au bureau de l'Union africaine en tant que président d'exercice de cette organisation continentale, donc on avait parlé du 10 février. Donc c'est dans pratiquement 2 jours que le chef de l'État devrait prendre ses fonctions officiellement. Mais comme j'ai dit, par rapport au voyage, prévu, il devrait arriver à Addis Abeba incessamment.
Jean-Pierre Wafana, merci.
Je vous en prie.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Polydor Basunga. Élise Chikota était à la coordination sous la supervision des Pélé qui paient la Mondo. Quant à moi, Pierrot et la Meji, je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un bulletin d'information. Mais vous pouvez retrouver ce journal sur www.radiocapi.net.